à Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou avec vous. Bienvenue dans cette édition Le Monde aujourd'hui du mercredi 17 juillet 2019. Il est 17h30 en temps universel. Voici les titres. Au Soudan, les généraux et les meneurs de la contestation ont signé un accord sur le partage du pouvoir. À Goma, en République démocratique du Congo, colère des habitants après le meurtre d'au moins deux personnes dans des actes de banditisme. Aux États-Unis, la Chambre des représentants, dominée par les démocrates, a condamné les commentaires qualifiés de racistes de Donald Trump. El Chapo, considéré comme le plus grand narcotrafiquant condamné à la prison à perpétuité aux États-Unis. 50 ans après, l'Amérique se souvient des premiers pas de l'homme sur la Lune. Au Bénin, cet événement a été suivi de très près. Juste après le journal, nous irons à la CAN pour la petite finale aujourd'hui entre le Nigeria et la Tunisie, avant la grande finale de vendredi entre l'Algérie et le Sénégal. Au Soudan, les généraux au pouvoir et les meneurs de la contestation signent aujourd'hui un accord sur le partage du pouvoir. Cet accord, arraché à l'issue des négociations qui ont duré toute la nuit, constitue un premier pas vers un gouvernement civil, principale revendication des contestataires. Eric Manirakiza a joint à Khartoum le journaliste et activiste Ala.
Les premières dispositions de transition et le conseil souverain. 5 militaires choisis par le conseil militaire de transition. Les 5 membres choisis par le corps de la déclaration de liberté et de changement. Outre les 10 membres déjà mentionnés, une personnalité civile choisie par consensus entre les deux parties doindra le conseil. Alors c'est un conseil de 11 personnes, 10 militaires, 10 civils, et puis une personne choisie par les deux. Le conseil de sécurité sera présidé durant les premiers 21 mois à compter de la date de signature du présent accord par l'un des membres militaires de ce conseil. Alors, dans les 18 mois qui restent de la période de transition, il sera présidé par l'un des membres civils du conseil. Un décret constitutionnel sera établi pour déterminer les attributions du conseil souverain. Je pense que l'accord n'est pas complet, il n'a pas répondu à toutes les exigences et les conditions des personnes révoltées, mais il établit des bases de mener le Soudan à des horizons de prospérité, de démocratie, de respect des droits de l'homme.
Salah, journaliste et activiste soudanais. En République centrafricaine, les combattants de 3 groupes armés ont déposé les armes dans l'ouest du pays, ont annoncé les représentants de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Ce désarmement intervient dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement lancé en décembre 2018 par les autorités. La situation sécuritaire reste fragile en Centrafrique, forçant un quart des 4,5 millions d'habitants à fuir leur domicile. Violence à Goma, la grande ville de l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 2 personnes ont été tuées hier soir dans des actes de banditisme provoquant la colère des habitants. Le point avec Abdourahman Dia.
Des centaines de personnes ont manifesté ce matin en transportant l'un des corps vers la morgue avec parfois des chants hostiles à la police et à l'armée. Tout a commencé par l'enlèvement de 2 personnes qui a mal tourné hier soir dans le nord de la ville. L'une des victimes a résisté et refusé d'être amenée en brousse. L'homme a été tué par balle sur le champ. Une autre personne se trouvant à côté, voulant savoir de quoi il s'agissait, a aussi été assassinée, a indiqué le commissaire provincial par intérim du Nord Kivu, Van Kasongo. Il y a aussi 4 blessés par balle, a-t-il ajouté. Un manifestant s'est demandé pourquoi des gens meurent alors qu'il y a un poste de police. Nous sommes en colère, nous ne sommes pas protégés par la police, a ajouté un autre. L'insécurité est un problème récurrent à Goma. Par ailleurs, un premier cas d'Ebola a été diagnostiqué à Goma. Le patient est décédé lors de son transfert vers Butembo, au nord de Goma.
Par ailleurs, l'épidémie de rougeole en cours en République démocratique du Congo a tué presque autant que les 2 autres épidémies d'Ebola et de choléra réunies, selon l'OMS qui tient ce mercredi une nouvelle réunion d'urgence sur Ebola à Genève. L'épidémie de rougeole a tué près de 2000 personnes pour 115 000 cas contre 1676 personnes pour Ebola sur 2200 cas. L'OMC doit déterminer ce mercredi si Ebola est une urgence de santé publique de portée internationale. après la découverte d'un cas dimanche à Goma. Toujours en République démocratique du Congo, le président congolais Félix Tshisekedi, qui a lancé son quinquennat avec des grands travaux pour améliorer la vie quotidienne des Congolais, est descendu ce mercredi dans l'arène de chantiers routiers qui aggravent pour l'instant les bouchons monstres à Kinshasa. Les juges de la CPI ont mis à l'écrit leur motivation sur l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les magistrats démontent point par point les poursuites contre l'ancien président ivoirien et l'ex-chef des Jeunes Patriotes à la suite de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les juges évoquent tout d'abord la déconnexion globale entre le récit de l'accusation et les preuves apportées, y compris les témoignages au procès débuté en janvier 2016. Deux des trois magistrats estiment que la thèse du procureur reposait sur des bases incertaines et douteuses. La Libye a extradé ce mercredi le frère de l'auteur de l'attentat suicide de Manchester en 2017, qui avait été arrêté à Tripoli quelques jours après cette attaque sanglante, selon une source de services de sécurité. Il était détenu par la force de RADA, qui fait office de police dans la capitale libyenne. La commission sud-africaine qui enquête sur la corruption a suspendu l'audition de son témoin numéro 1, l'ancien président Jacob Zuma, qui s'est plaint du ton à ses yeux trop insistant des questions qui lui sont posées. L'ex-chef de l'État a nié toute implication dans ses affaires de corruption en criant à la calomnie et en dénonçant un complot destiné à l'éliminer, voire l'assassiner. Le témoignage de l'ancien président doit reprendre vendredi matin si un accord a été trouvé d'ici là sur ses modalités.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chambre basse du Congrès américain a adopté hier une motion condamnant des propos jugés racistes du président Donald Trump, une accusation qu'il rejette en bloc tout en continuant d'attaquer les quatre élus démocrates issus des minorités. Salwa Jafari.
Le démocrate John Lewis, membre de la Chambre des représentants.
I rise with a sense of righteous indignation.
Je me lève avec indignation pour soutenir cette résolution. Je reconnais le racisme quand je le vois.
I know racism when I feel it.
Je connais le racisme quand je le sens. Et au plus haut niveau du gouvernement, il n'y a pas de place pour le racisme.
There's no room for racism.
La majorité de la Chambre a voté pour un texte qui, je cite, « condamne fermement les commentaires racistes du président américain, légitimant et accentuant la peur et la haine des nouveaux Américains et des personnes de couleur ». En réponse à la motion du Congrès, Donald Trump a appelé les élus républicains à ne pas tomber dans le piège tendu, selon lui, par ses adversaires. Puis il persiste et signe « Notre pays est libre, magnifique et prospère. Si vous le détestez ou si vous n'êtes pas heureux ici, vous pouvez partir ». Ces déclarations ne semblent pas nuire à la popularité de M. Trump dans sa base. Son taux d'approbation a même gagné 5 points à 72%. Selon un sondage de Reuters, IPSOS, réalisé lundi et mardi.
Le narcotrafiquant mexicain Joaquim Guzman, alias El Chapo, a été condamné par un juge de New York à la perpétuité, symboliquement assorti de 30 années de prison supplémentaire. Le point avec John Lyndon.
Les avocats du narcotrafiquant ont déjà annoncé qu'ils vont faire appel. El Chapo a été reconnu coupable le 12 février. Et le juge fédéral Brian Kogang l'a condamné à l'emprisonnement à perpétuité, assorti de 30 ans de prison supplémentaire. Durant le procès, l'accusation a montré que le Mexicain a ordonné l'assassinat ou mis lui-même à mort au moins 26 personnes. Il aurait acheminé aux États-Unis au moins 1200 tonnes de cocaïne sur un quart de siècle. Le juge a aussi ordonné la saisie de 12,6 milliards de dollars qui correspondraient aux gains tirés du trafic de drogue. La justice n'a pas été rendue à 17 hommes de 62 ans dont le parcours a commencé dans les champs de cannabis de Sinaloa. Il devrait purger sa peine à l'administrative Maximum Facility à Florence, dans le Colorado. Surnommée l'Alcatraz des Rocheuses, cette prison au milieu de nulle part est considérée comme la plus sûre des États-Unis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On enchaîne sur le journal de la CAN avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. La Tunisie et le Nigeria vont tenter de se consoler tout à l'heure à 19h temps universel en prenant la troisième place de la Coupe d'Afrique des Nations lors de la petite finale. Après des demi-finales à rebondissement et au dénouement cruel pour eux, le rêve d'un deuxième titre s'est envolé pour les Aigles de Carthage et leur sélectionneur le reconnaît, difficile de remobiliser les joueurs. Alain Giresse.
C'est un match où deux équipes qui vont s'affronter sont deux équipes qui ont essuyé une déception, la déception de ne pas les jouer en finale. Donc c'est une finale de deux équipes qui ont été éliminées. Donc la remobilisation n'est pas la même. Il n'y a pas ce côté un petit peu dynamisant, euphorique d'une victoire en demi-finale pour jouer la grande finale.
Avant d'atteindre le dernier carré, la Tunisie s'était montrée laborieuse. Après 3 nuls et une qualification par la petite porte en 8e, elle a eu recours au tir au but pour écarter le Ghana et n'a finalement gagné son premier match qu'en quart contre la surprise Madagascar 3-0. Plus convaincant en poule, le Nigeria a ensuite sorti le tenant du titre, le Cameroun, en 8e, puis l'Afrique du Sud en quart, avant une élimination face à l'Algérie. Face aux Tunisiens, les Super Eagles pourront s'appuyer sur leur expérience des petites finales. Ils ont déjà fini 7 fois à la 3e place de la CAN contre 1 fois pour les Tunisiens en 1962. Cette fois encore, les Nigériens veulent accrocher ce 3e rang pour finir leur compétition sur une note positive.
Je pense qu'il est mieux de rentrer avec une victoire au Nigeria, même si c'est une petite finale, qu'avec une défaite en finale. C'est un match pour le plaisir et pour aussi le spectacle, j'espère.
Guénot Ross, sélectionneur du Nigeria, autre enjeu de ce match. La place de meilleur buteur de cette édition, convoitée par Odion Ighalo, seul en tête du classement avec 4 buts, le Super Eagles tentera de distancer le Sénégalais Sadio Mané et les Algériens Riyad Mahrez et Adam Ounas en embuscade avec 3 buts qui s'affrontent en finale vendredi. Depuis Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué revient sur les enjeux de cette petite finale. C'est le coup de sifflet.
La petite finale, c'est le nom donné au match de classement qui oppose ordinairement les perdants des demi-finales afin de déterminer le 3e de la compétition, une sorte de lot de consolation. Généralement, il s'agit d'un match déprimant, joué devant un maigre public, même lorsque le pays organisateur est concerné, les différents sélectionneurs en profitant pour aligner le 3e gardien et ceux qui n'ont pas joué. Mais ça, c'était avant. Depuis quelques décennies, l'objectif de cette rencontre a évolué, devenant plus positif. Le spectacle est de plus en plus au rendez-vous, les entraîneurs faisant de ce match un véritable feu d'artifice où les joueurs, longtemps comprimés par l'obsession de la gagne, sont libérés et profitent de cet élan offensif pour donner à leur meilleur buteur l'occasion d'être couronné soulier d'or de la compétition, une autre façon de marquer l'histoire, même lorsque le trophée est perdu. Ce n'est pas par hasard si les meilleurs buteurs des Coupes du Monde ou des Coupes d'Afrique des Nations ont souvent joué cette petite finale, comme le Français Just Fontaine, les Allemands Gerd Müller et Miroslav Klose, ou encore l'Ivoirien Laurent Pogba. Voilà de quoi encourager à suivre avec intérêt le match de mercredi qui se joue pour de vrai. La Tunisie, une formation confirmée, se doit de nous faire oublier le début possible de sa prestation pendant cette CAN et dans un style plus généreux, elle aura à cœur de mériter son retour parmi les plus grands en montant sur le podium. Le Nigeria, en pleine mutation, depuis sa déconvenue à domicile contre l'Afrique du Sud il y a 3 ans, a rapidement réussi à se reconstruire une nouvelle équipe constituée de beaux bébés prometteurs venus de la Première Ligue anglaise et d'autres championnats élevés. L'expérimenté sélectionneur Gerard Rohr lui a vite fait prendre la mayonnaise depuis la campagne victorieuse des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. L'impression de solidité qu'il a dégagée tout au long de cette compétition se veut être récompensée également par une place sur le podium et un possible soulier d'or pour son attaquant vedette Ighalo. Affaire à suivre.
Toujours dans l'actualité sportive africaine, la finale de la Ligue africaine des champions se jouera sur un seul match et sur terrain neutre à partir de 2020. Ainsi en a décidé la CAF dont le comité exécutif s'est réuni ce matin au Caire. La même décision a été prise pour la Coupe de la Confédération. Un appel d'offres sera lancé pour désigner les villes hôtes de ces rencontres. L'ancien format prévoyait une finale en manche aller et retour. Ce changement répond à la polémique née de la dernière finale de la Ligue des champions entre le Wydad Casablanca et l'Espérance de Tunis. Un match retour à rejouer sur terrain neutre et à une date encore à déterminer en raison de la panne de l'assistance vidéo à l'arbitrage lors de la manche retour à Tunis. C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place à présent au dossier du jour. Au Burkina Faso, on ne sait toujours pas grand-chose sur la mort de 11 personnes qui étaient détenues à la prison d'une unité de la police en charge de la lutte contre la drogue. On ne connaît pas non plus leur identité. Leurs corps ont été retrouvés dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'ils étaient en garde à vue. Bagassi Koura a joint à Ouagadougou le commissaire de police Rachid Palenfo. Il est le secrétaire général adjoint de l'UNAPOL, l'un des deux syndicats de police du pays. Il nous explique ce qu'il sait de ce drame.
L'événement ne serait pas dû à une bavure policière, mais plutôt aux conditions de détention. Et ça, c'est ce que les gardes à vue nous ont dit, parce que, vous savez, les salles de détention au Burkina Faso ne répondent pas aux normes, aux exigences qui permettent de respecter convenablement les droits de l'homme.
Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Et il n'y a jamais eu 11 morts d'un coup.
Ça, c'est pas nouveau. Il n'y a jamais eu 11 morts d'un coup. Mais que voulez-vous, monsieur? Vous ne savez pas quelle gymnastique les policiers chaque jour font pour qu'il n'y ait pas ce genre de drame. Et je vous dis encore, les gardes à vue sont témoins. Ils nous ont dit qu'ils se lavent hein, tous les jours. On leur permet de se laver deux fois par jour, le matin et puis le soir. Ils nous ont même fait savoir que des policiers ont eu à enlever de l'argent, ça veut dire leur propre salaire pour les payer à boire. Ils nous ont dit que cela serait dû aux conditions de détention, notamment la salle qui est exigue, notamment à l'incommodité de la salle. Vous savez, moi, je connais bien l'unité antidrogue. C'est un bâtiment de type colonial qui n'était pas fait même au demeurant pour les missions de police judiciaire. C'était une autre structure qui était là-bas. C'est un bâtiment qui, par la suite, des circonstances, a été rétrocédé à la police. C'est un bâtiment aujourd'hui qui menace ruine. C'est un bâtiment très insalubre et très incommode.
Est-ce que tous les éléments qui sont impliqués ou qui étaient en charge de cette détenue ont été relevés de leurs fonctions, le temps de l'enquête par exemple?
Bon, le chef de service, vous l'avez suivi. Donc il y a des mesures conservatoires qui sont prises.
Le chef de l'unité a été relevé de ses fonctions. Qui d'autre?
Ouais, on sait qu'un médecin légiste a été requis pour ça. Je sais qu'il y a des lettres d'explication qui ont été demandées. Je sais qu'une enquête a été ouverte et que des gens sont en train d'être auditionnés.
Pour bien mener l'enquête, est-ce qu'il ne fallait pas relever tous ces éléments qui étaient en poste ce jour-là et après, s'ils n'ont rien à voir, qu'on puisse les remettre à leur place?
Ça, c'est des mesures conservatoires, c'est du ressort de l'autorité.
Qui ne le fait pas jusqu'à ce jour.
Il faut faire ceci, il faut faire cela. Tout ce que nous, on peut dire, on demande à l'autorité d'être impartiale, de ne pas s'immiscer comme nous avons vu en 2011 dans une affaire judiciaire. Ce que nous avons comme salle de garde à vue, c'est tout sauf des cellules de garde à vue. Parce qu'une garde à vue, on garde la personne et on a la possibilité de la voir. Mais chez nous, avec nos violons, on ne peut pas garder quelqu'un à vue. Parce que les personnes qu'on garde là, on ne les voit pas. Donc si les policiers les voyaient, peut-être que ça n'allait pas arriver. Donc il faut qu'on travaille à humaniser nos violons.
Quel est le moral quand vous échangez avec vos hommes?
Le moral des gens est à plat. Et c'est pour ça que nous invitons encore le gouvernement à ne pas s'ingérer. Le moral est à plat.
Rachid Palenfo, secrétaire général adjoint de l'un des deux syndicats de police du pays.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le syndicat des magistrats du Tchad dénonce les dysfonctionnements dans l'appareil judiciaire. Selon le SMT, ils sont caractérisés par la libération illégale de détenus et la détention arbitraire de ceux qui ont été relâchés sur décision de justice, mais qui restent en prison. Le SMT qualifie cette situation de deux poids deux mesures. André Komadjinga, correspondant de VOA, nous fait le point de N'Djamena.
Le syndicat des magistrats du Tchad affirme avoir des documents qui prouvent à suffisance qu'il y a deux poids, deux mesures dans l'exécution des décisions judiciaires. Djimé Arabi, ministre de la Justice.
Moi, en tant que garde des sous ministère de la Justice, si l'exécution d'une décision judiciaire peut troubler l'ordre public, je pourrais demander à ce que l'exécution de cette décision soit arrêtée. En dehors de ça, je ne sais pas pourquoi je dois écrire pour demander l'arrestation et la libération d'un justiciable.
Les cas qui défraient la chronique selon les magistrats sont en entre autres la condamnation d'un sous-préfet à 18 mois de prison ferme et qui n'a jamais été en prison, et l'annulation par un acte des autorités judiciaires de la décision de la chambre d'accusation annonçant la nullité de la procédure dans un dossier. Pour Djonga Arafi, secrétaire général du SMT, le ministre est bel et bien au courant de ce dysfonctionnement.
Nous avons conduit une mission qui a rencontré le ministre Garde des Sceaux pour lui faire part de ces agissements. Nous avions été amadoués par les propos du ministre selon lesquels des choses pareilles ne vont plus jamais se répéter à l'avenir, mais nous avons des gens qui sont condamnés à des peines fermes. Ils retrouvent la liberté totale par un simple acte. Des cas où des gens qui sont soit condamnés à des peines sursitaires, soit ils bénéficient de la liberté dont on refuse de les libérer.
Tout est parti de la saisine du bureau exécutif du syndicat des magistrats du Tchad par deux cabinets d'instruction faisant état de l'ingérence des autorités de la chancellerie dans le fonctionnement des différentes juridictions. Djimé Arabi, ministre de la Justice, refute ces allégations et qualifie cette sortie médiatique de dilatoire.
On ne peut pas du tout, au niveau de la justice, se permettre de faire des libérations illégales ou bien des détentions arbitraires. Peut-être que je ne suis pas au courant. Ils auraient pu se rapprocher de moi pour me dire qu'il y a tel ou tel cas. J'étais tombé de nu.
Maître Lokulde Francis, dont trois de ses clients étaient victimes de ce dysfonctionnement, salue le courage des magistrats qui sont sortis de leur silence.
Conformément aux dispositions de l'article 450 de notre code de procédure pénale, mes clients devaient être mis immédiatement en liberté. Malheureusement, ils n'ont pas été libérés jusqu'à ce que la condamnation ferme de la cour d'appel s'ensuive. Si aujourd'hui les magistrats se sont retrouvés pour débattre du dysfonctionnement de la justice, on ne saurait que s'en réjouir.
Le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Midaï Guérimbaï, salue lui aussi le courage des magistrats, bien qu'ils soient tenus au droit de réserve, mais ont pointé du doigt le vrai problème qui entrave le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Il plaide pour une véritable séparation de l'exécutif et du judiciaire au Tchad. André Kodmadingar Ndjamena, VO Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum. Il y a 50 ans, cette semaine, trois astronautes, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, entraient dans l'histoire en se posant sur la Lune. Un événement majeur dans la conquête spatiale qui évoluera de la rivalité entre les États-Unis et l'ex-Union soviétique à la possibilité d'envoyer des touristes dans l'espace dans quelques années, en passant par le lancement de milliers de satellites depuis par plusieurs pays. L'Afrique, elle, essaie de prendre le train en marche. Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, dans Washington Forum. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de VOA Afrique.
Direction l'Afrique du Sud pour parler de Pelebox, un casier intelligent qui apporte un grand changement dans la manière dont les médicaments sont distribués dans les établissements de santé. C'est une initiative de Neo Outouri qui n'a pas été réalisée que grâce à l'obtention du prix Afrique de la Royal Academy of Engineering, un prix créé en 2014 pour récompenser l'innovation en ingénierie. Les précisions de John Lyndon.
Neo Outouri ne pouvait espérer mieux. Il est devenu le premier Sud-Africain à remporter le prix Afrique de la Royal Academy of Engineering, doté de 25 000 $, après avoir conçu Pillbox, un système de casier intelligent qui distribue des médicaments aux patients atteints de maladies chroniques. Neo Outouri, fondateur de la société sud-africaine Pillbox, évoque ici la genèse de son projet. J'ai été formé pour élaborer des solutions et des produits. Et je me suis dit, pouvons-nous construire un produit centré sur le patient? Cela nous concerne d'abord en tant que patient, tout en respectant toutes les exigences réglementaires et tout le cadre que le ministère de la Santé veut mettre en place pour améliorer l'accès aux soins.
C'est en voyant que les patients passaient trop de temps dans les files d'attente pour collecter leurs médicaments dans les établissements de santé que Neo Outouri a développé ce concept qui permet aux malades de recevoir sur leur téléphone une alerte et un code ping qui leur permet d'avoir accès à leurs médicaments. Un système que beaucoup de pharmaciens apprécient. Ngoche Ndate est pharmacien.
La machine facilite les choses parce que certains patients diraient que venir à la clinique est déjà stressant pour eux et qu'attendre ensuite un médicament, c'est un autre stress.
Le casier intelligent semble également avoir trouvé un accueil favorable auprès des patients et beaucoup ne cachent pas leur satisfaction. C'est le cas de Paulina Misingi, une patiente qui utilise Pillbox.
Pillbox va bien, ce n'est pas stressant.
Par exemple, quand je reçois un message sur mon téléphone, je peux aller le chercher le lendemain. Même si j'ai du travail à faire, je peux aller chercher mes médicaments. Je n'ai pas besoin d'attendre dans de longues files à la clinique. Donc, alors je viens, je prends mes médicaments et je pars. Cela me rend heureuse.
Neo Outiri, qui dit avoir été surpris par son prix, qui récompense l'innovation en Afrique, travaille actuellement à l'amélioration des pillbox et à la fabrication de plusieurs unités.
Au Bénin, l'expédition de l'homme sur la Lune reste un souvenir gravé dans les mémoires et les cœurs de beaucoup de Béninois. Certains l'ont vécu en direct par la radio, d'autres l'ont lu dans les journaux ou dans les livres d'histoire. Ils sont tous unanimes à penser que la mission Apollo 11 a changé irrémédiablement l'histoire de l'humanité. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adande.
Noël Ewaignon est âgé de 64 ans. Il se rappelle avec émotion, l'oreille collée à la radio, les informations ce 20 juillet 69 annonçant les premiers pas de l'homme sur la Lune. L'événement était aussi accompagné par une épidémie de conjonctivite dans presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest et depuis, la conjonctivite est surnommée Apollo.
Dans les années 71, il y a eu cette épidémie de conjonctivite et que les gens ont appelé tout de suite Apollo parce qu'ils disaient que c'était suite aux microbes ramenés de l'espace que il y a eu cette maladie-là. Cet événement aussi, disons quelque part, faisait la réalisation d'une des prophéties du président Kennedy qui avait affirmé que les hommes, les Américains, poseraient les pieds sur la Lune avant les années 70. Ce qui s'est réalisé, tout le monde en était content, on en a beaucoup parlé.
Stephen Johnson n'avait que 4 ans en 1969, mais plus tard à l'école, il apprendra dans les livres ce qu'il appelle espoir pour la suivi de l'humanité.
Cette information était une première à l'échelle mondiale parce que un homme sur la Lune, c'était donc la preuve que la vie était possible ailleurs que sur la Terre et donc augurait de nombreux espoirs. Ça commençait à apporter des réponses à certaines questions. Y a-t-il une vie ailleurs? Comment ça se passe?
Si pour la génération des années 69, Apollo 11 a joué un rôle déterminant dans l'évolution scientifique et technologique du monde, pour les jeunes, la réalité est tout autre. Yannick Maouillon est un jeune diplômé qui estime qu'il n'y a pas d'impact sur le coût de l'histoire du monde.
Les problèmes de l'humanité sont tellement énormes que aller sur la Lune, pour moi, c'est comme résoudre des équations des scientifiques. Pour moi, ça n'a aucun impact sur l'évolution de l'humanité. Pour les scientifiques, certainement oui, mais pour moi, non.
Anita Marcos, journaliste de profession, pense pour sa part que Neil Armstrong a ouvert la voie à bien du succès scientifique.
Apollo 11 n'était justement pas la première tentative pour aller sur la Lune. Et c'est justement cette mission-là qui s'est révélée être le meilleur essai parce que justement les hommes ont pu aller sur la Lune et ça a ouvert la voie à des progrès, à des avancées notoires dans le domaine spatial mondial, je vais dire.
Pour Eddie Dainho, jeune communicant, même si ce n'était pas Neil Armstrong, un Américain serait quand même le premier à poser les pas sur la Lune. Pour les 50 ans de cette expédition, le département scientifique de l'Université d'Abomey-Calavi prévoit des journées portes ouvertes afin de faire connaître à qui il désire l'histoire d'un petit pas de l'homme sur la Lune, un pas de géant pour l'humanité. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Joselle Morissin, à la console, Patrice Déa, à la présentation, Ekiabadou. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente suite de programme à l'écoute de VOA. Écoutez. écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.